très bonne question pour vous. Est-ce que nos tribunaux reflètent la justice de Dieu par leur verdict? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse bien instructive aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a plusieurs bonnes questions à poser à la parole de Dieu aujourd'hui. Alors allons-y sans plus tarder. Est-ce que Dieu fonctionne selon des principes? Est-ce que les juges auront des comptes à rendre à Dieu un jour? Est-ce que nos tribunaux reflètent la justice de Dieu par leur verdict? Est-ce qu'un juge qui ne craint pas Dieu peut accomplir adéquatement sa tâche? Est-ce que l'Assyrie sera un instrument de Dieu pour châtier la nation d'Israël? Est-ce que les nations qui se tournent contre la nation d'Israël seront châtiées un jour? Est-ce que Dieu contrôle les nations? Est-ce qu'un croyant qui sert Dieu pour des motifs de gloire personnelle perdra sa récompense? Pourquoi est-ce qu'on doit s'assurer de marcher avec Dieu? Serons-nous tous jugés à la fin des temps? Restez avec nous, on est sur le point de recevoir tout un enseignement par la bouche du pasteur Régent Joly. Il a ouvert sa Bible, il est prêt à répondre à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, oui. On se rend compte que souvent, on n'a pas suffisamment la crainte de toi, la crainte de t'offenser. Toi qui es Dieu, toi qui connais tout, toi qui es le Créateur de l'univers. Apprends-nous la crainte de Dieu à travers cet enseignement, aujourd'hui même, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu qu'Isaïe a prédit que les tribus de Zabulon et de Nephtali seraient couvertes de gloire. Cela s'est produit lorsque le Seigneur Jésus a habité Capernaum et prêché en Galilée, une province romaine qui se trouvait sur les anciens territoires de Zabulon et de Nephtali. Les prophéties de Dieu s'accomplissent toujours. Le peuple de Dieu se réjouit dans son Dieu et non dans une religion. Nous avons constaté que Dieu protège son peuple. Dieu a protégé Juda contre l'oppresseur assyrien, et à son retour, il anéantira ceux qui oppresseront son peuple. Lorsque Dieu délivre son peuple, celui-ci peut détruire les armes de ses adversaires et détruire ses propres armes. Finalement, nous avons examiné les noms de l'enfant qui devait naître, tels que Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ces noms démontrent la sainteté, la sagesse, la puissance, l'infinité et la justice de Dieu. Ces noms prouvent que l'enfant dans les bras de Marie était pleinement Dieu, créateur de l'univers qu'il soutient. J'aimerais vous rappeler que les prophéties des chapitres 7 à 12 ont été faites pendant le règne d'Akas, un méchant roi. Pendant ces pages sombres de l'histoire d'Israël, Isaïe a prophétisé au sujet du peuple de Dieu et de la situation contemporaine. Mais les paroles du prophète pointent aussi au temps où Dieu établira son royaume sur terre. Dieu agit selon des principes. Aujourd'hui, nous examinons le chapitre 10, un autre chapitre remarquable de la parole de Dieu. Nous voyons les grands principes que Dieu emploie dans ses relations avec les hommes et les nations. Nous voyons le plan grandiose de Dieu pour l'humanité. Le chapitre s'ouvre par une discussion sur le système judiciaire de l'époque. Les injustices qui s'y produisent sont reflétées dans la culture du peuple et elles attirent le châtiment de Dieu. Dieu va utiliser la puissante nation assyrienne pour châtier son peuple. L'Assyrie est une image du roi du Nord qui montera contre le peuple de Dieu à la fin des temps. Cette prophétie s'applique à l'avenir rapproché d'Israël, mais s'applique aussi à la fin des temps. Le chapitre se termine par une image saisissante de l'arrivée de l'ennemi du Nord pour la bataille d'Armageddon. Chers amis, débutons notre lecture d'Ésaïe chapitre 10, verset 1. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Après la justice des hommes, il y a celle de Dieu. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques, c'est-à-dire à ceux qui rendent des verdicts injustes et qui prennent des décisions malhonnêtes. Les hommes qui représentent la justice et qui devraient la faire respecter sont ceux qui agissent malhonnêtement. Le discours des premiers versets de ce chapitre ressemble au discours de Platon ou des moralistes, mais avec une différence notable. Nous remarquons la justice de Dieu derrière la justice des hommes. Les juges sur terre doivent refléter et révéler la justice de Dieu, et ils devront rendre des comptes à Dieu. Verset 2. Pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Le système judiciaire faillit souvent à sa tâche. Ces versets décrivent très bien notre situation contemporaine. Nos tribunaux ne reflètent certainement pas la justice de Dieu par de nombreux verdicts et de nombreuses décisions qu'ils rendent. En fait, les tribunaux et les législateurs ne tiennent plus compte de la loi de Dieu. Les taux de criminalité augmentent parce que les tribunaux ne sont pas assez sévères. Notre scripteur a déjà travaillé comme conseiller dans un programme pour jeunes décrocheurs. Certains éprouvaient de la difficulté à se trouver un emploi à cause de leur dossier judiciaire. Nous passions devant le juge plusieurs mois après notre mauvais coup, lui a expliqué un jeune. Nous recevions une condamnation avec sursis. Nous trouvions cela drôle parce que nous pensions que nous nous en tirions. Des gens commettent des infractions et des crimes, mais ces personnes n'ont pas à en subir les conséquences. Tant que les tribunaux ne puniront pas les criminels et les délinquants, le taux de criminalité augmentera et nos villes seront moins sûres. Un juge qui ne craint pas Dieu ne peut pas accomplir adéquatement sa tâche. Les pauvres, les veuves et les orphelins ont particulièrement besoin d'un système de justice efficace. En fait, à cause du cœur pécheur de l'homme, seul Dieu va rendre justice aux pauvres. D'ici là, nous devons composer avec un système judiciaire, avec des juges qui ne craignent pas Dieu. Un juge n'est pas vraiment qualifié pour son poste tant qu'il ne reconnaît pas qu'il représente Dieu. Notre société s'est tellement éloignée de Dieu et de sa parole que nos gouvernements et nos tribunaux ne tiennent plus compte de Dieu. En fait, prêter serment sur la Bible en cour est devenu un geste futile et vide de sens. Dieu fonctionne selon des principes, et tant qu'un juge ne représente pas Dieu, il ne peut pas représenter adéquatement le peuple. Verset 3 d'Ésaïe 10. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours, et où laisserez-vous votre gloire? Au tribunal de Christ, les juges se tiendront devant un juge juste. Dieu dit au juge, « Vous devez me représenter, et je vous jugerai un jour. » Aucun juge ne devrait oublier qu'un jour, il comparaîtra devant Dieu et il devra rendre des comptes à Dieu au sujet des décisions qu'il aura prises et des jugements qu'il aura rendus. La justice devrait être rendue à tous, riches ou pauvres. Au tribunal de Christ, les juges se tiendront devant un juge juste. Verset 4. Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Des injustices se produisent dans toutes les couches de la société. Tous sont touchés par ces injustices qui n'entraînent que détérioration et dégradation de la société. En plus, aujourd'hui, les gens ont abandonné de nombreuses valeurs morales. Nous arrivons au verset clé du chapitre. Dieu prononce une parole que plusieurs trouvent étrange et certaines personnes sont incapables de l'accepter. Mes amis, si vous n'aimez pas ce que le texte dit, parlez-en à Dieu, car c'est lui qui dit cela. Je ne fais que lire ce qu'il a dit. Verset 5. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Les ravages faits par l'armée assyrienne provenaient de Dieu. Ce verset clé du passage nous éclaire sur les intentions de Dieu. L'Assyrie sera un instrument de Dieu pour châtier son peuple, la nation d'Israël. L'Assyrie sera une verge de correction dans les mains de Dieu. Tous les dommages et les ravages que fera l'armée assyrienne seront en réalité faits par la main de Dieu. L'homme contemporain éprouve de la difficulté à accepter cela. Poursuivons la lecture, verset 6 d'Ésaïe 10. « Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux. Pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin. Pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. » Dieu affirme que c'est lui qui a suscité la nation assyrienne et qui l'a envoyé envahir le territoire de son propre peuple. C'est Dieu qui a permis que Sennachérib, roi d'Assyrie, amène le royaume du Nord en captivité. Les nations qui se tournent contre le peuple de Dieu seront châtiées. L'Assyrie est le symbole d'un autre royaume du Nord, un royaume que Dieu utilisera dans les derniers jours. Tout comme Dieu a utilisé l'Assyrie afin de châtier son peuple, il utilisera une nation pour châtier les pays qui se tourneront contre son peuple à la fin des temps. Aujourd'hui, nos richesses nous détournent de Dieu. Nos gouvernements et nos tribunaux ne tiennent plus compte de Dieu. Nous recherchons les plaisirs et la richesse et nous délaissons les valeurs morales judéo-chrétiennes. Se pourrait-il que Dieu suscite des adversaires pour châtier les nations qui pêchent contre beaucoup de lumière, les nations parmi lesquelles sa parole a été proclamée, annoncée et enseignée? La défaite des Américains au Vietnam aurait-elle été un avertissement divin? Nos emplois qui s'en vont en Chine sont-ils un avertissement de Dieu? Poursuivons la lecture d'Ésaïe chapitre 10, versets 7 et 8. Mais il n'en juge pas ainsi. Et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Car, il dit, mes princes ne sont-ils pas autant de rois? Dieu contrôle les nations. Si vous aviez demandé au roi assyrien si son pays était une verge dans les mains de Dieu, il vous aurait ri en pleine face. L'Assyrie n'était pas consciente qu'elle était un instrument dans les mains de Dieu pour châtier son peuple. Elle ne pensait pas que Dieu l'avait suscité, et elle n'aurait jamais reconnu un tel fait. L'Assyrie remportait de grandes victoires militaires sur tous les fronts, et son orgueil l'empêchait de voir la main de Dieu dans ces événements. Les Assyriens s'appuyaient sur leur force et leur suprématie. À cause de ces victoires, la nation se pensait plus forte et plus sage que les autres. Certains chefs d'État ont la même attitude aujourd'hui. Ils se pensent plus forts et plus sages que les autres. Cependant, c'est Dieu qui prend les décisions finales et qui accomplit ses plans, bien qu'il utilise ses nations pour porter ses projets à terme. Verset 12. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Servons-nous par amour pour Dieu et pour lui plaire? Lorsque Dieu aura châtié son peuple par la main des Assyriens, il se tournera contre eux pour les juger à leur tour. L'histoire confirme qu'ils n'ont pas échappé au jugement de Dieu. Ésaïe indique que Dieu contrôle et juge toutes les nations de la terre. Pourquoi Dieu juge-t-il la Syrie alors que la nation était un instrument entre ses mains pour juger la nation d'Israël? Dieu juge la Syrie parce qu'elle n'a pas agi avec un bon motif. La Syrie a conquis Israël pour s'enrichir et pour affermir sa puissance. La Syrie n'a pas recherché la gloire de Dieu. Elle n'a pas cherché à plaire à Dieu. De la même façon, nous pouvons pratiquer une religion ou servir dans l'Église pour notre gloire personnelle. Nous ne cherchons pas à glorifier Dieu ou à lui plaire, mais nous servons par intérêt personnel ou pour notre avancement. Nous désirons nous valoriser. Nous ne servons pas par amour pour Dieu et nous ne désirons pas lui plaire. Si nous servons pour un mauvais motif, nous serons jugés et nous perdrons notre récompense. Verset 15 d'Ésaïe 10. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. Assurons-nous de marcher avec Dieu parce qu'il gouverne l'univers. Imaginez que vous marchez dans la forêt et que vous voyez une hache. Celle-ci se félicite en disant « Regarde le gros arbre que j'ai abattu !» Vous vous approchez et vous ne voyez que la hache. Vous lui dites « Mais, dis-tu que tu as toi-même abattu cet arbre gigantesque ?» La hache répond « L'arbre est au sol et c'est moi qui ai fait le travail. » Vous pensez que c'est ridicule? Quelqu'un devait manipuler la hache. C'est exactement ce qui se passe avec la Syrie et les autres nations. Dieu utilise les nations et les États. C'est pourquoi qu'il est important que les hommes reconnaissent que Dieu est souverain et qu'ils se tournent vers lui afin qu'il les guide. Dans tous les pays, nous avons des groupes minoritaires. Cette minorité peut être une ethnie, un mouvement religieux, un parti politique. Cependant, la véritable minorité est Dieu, bien que les gens le négligent. Et considèrent Dieu une minorité, le vote de Dieu demeure toujours le vote majoritaire. Si vous suivez Dieu, vous êtes du côté majoritaire. Assurons-nous de marcher avec Dieu parce qu'il gouverne l'univers. Les Assyriens étaient un instrument dans les mains de Dieu, et il peut employer d'autres nations pour accomplir ses plans ou châtier des pays qui se détournent de lui. Maintenant, nous avons une vision du reste de la nation juive pendant la grande tribulation. Le verset 20. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Après le retour de la captivité, les Juifs ne sont jamais retombés dans l'idolâtrie. Cependant, le prophète ne parle pas seulement de la situation qui prévalait à son époque, mais il parle d'un jour lointain, ce jour-là. Il parle du jour de l'Éternel qui débute avec la grande tribulation. Verset 24. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi comme faisaient les Égyptiens. Ce verset console Judas, car le pays sait qu'il échappera à la captivité assyrienne. Le verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Encore une fois, Ésaïe parle des événements de ce jour-là, le jour de l'Éternel. Poursuivons la lecture d'Ésaïe chapitre 10, lisons les versets 28 à 32. Il marche sur Ajat, traverse Migron, laisse ses bagages à Micmash. Il passe le défilé, il couche à Geba, Rama tremble. Gibéa de Saül prend la fuite. Fais éclater ta voix, fille de Galim. Prends garde, Laïs. Malheur à toi, Anatot. Madména se disperse. Les habitants de Gibim sont en fuite. Encore un jour, de halte à Nob. Et il menace de sa main la montagne de la fille de Sion, la colline de Jérusalem. Cette prophétie est remarquable. Elle identifie des lieux géographiques et tous sont situés au nord de Jérusalem. Ces noms indiquent la route qu'a suivie la Syrie et celle qu'empruntera le futur envahisseur provenant du nord. Cet envahisseur provient du territoire de Magog. Ézéchiel chapitre 38 et 39. Notez les endroits mentionnés. Ajat est à 24 kilomètres au nord de Jérusalem. Migron est au sud d'Ajat et c'est dans ce passage que Jonathan, fils de Saül, a vaincu les Philistins. 1 Samuel chapitre 14. Geba et Rama sont environ à 10 kilomètres au nord de Jérusalem, alors qu'Anatot se trouvait à 5 kilomètres au nord de la ville. Cette ville était la ville natale du prophète Jérémie. Laïs se trouvait à l'extrême nord de la nation d'Israël, dans le territoire occupé par la tribu de Dan. Madmena était un dépotoir au nord de Jérusalem. Nous ne savons pas où se trouvait exactement Gibim, mais il est probable que c'était au nord de Jérusalem. Nob, la dernière place mentionnée, se trouvait au nord de Jérusalem, et on pouvait l'apercevoir de la capitale de Juda. Ce passage nous permet de retracer l'itinéraire de l'armée assyrienne qui venait du nord. À son approche, Jérusalem a été paralysée par la peur et le défaitisme. Le peuple ne croyait pas que la victoire était possible. Verset 33 d'Ésaïe 10. Voici. Le Seigneur, l'Éternel des armées, brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus. Dieu est intervenu afin de sauver son peuple. Je pense que cela fait allusion à la deuxième venue de Jésus-Christ alors qu'il établira son royaume. Verset 34. Il renverse avec le fer les taillis de la forêt et le Liban tombe sous le puissant. Le puissant est le Seigneur Jésus qui revient sur la terre. Mes amis, le texte d'aujourd'hui nous rappelle une vérité sérieuse et importante. Dieu juge son peuple. Et à la fin des temps, nous serons tous jugés. Voici quelques versets. Le premier texte, que je cite, démontre que Dieu châtie ses enfants pour leur bien, afin qu'ils participent à sa sainteté. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils? Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Hébreux chapitre 12, versets 5 à 11. L'œuvre des chrétiens sera jugée pour recevoir des récompenses. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 11 à 15. Par contre, celui qui ne craint pas Dieu sera tout simplement condamné. Dieu a envoyé la nation d'Israël en captivité parce qu'elle l'a abandonnée pour des idoles et les gens pratiquaient le mal. Dans l'Évangile selon Jean, nous lisons: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 3, verset 36. Êtes-vous châtié pour votre bien comme enfant de Dieu ou condamné sans espoir comme des impies? Venez à Jésus-Christ pour le salut de votre âme. Il vous invite à le faire. Prochaine émission. Préparons-nous en lisant le prophète Ésaïe, le chapitre 11. Bonne lecture.
Merci, Régent. Tu as terminé aujourd'hui en mentionnant deux choses qui sont bien importantes à retenir pour tout le monde. Premièrement, tu as dit qu'à la fin des temps, l'œuvre des croyants sera jugée pour qu'on reçoive des récompenses. Et deuxièmement, tu as dit que celui qui ne craint pas Dieu sera tout simplement condamné. Oh, mes amis, quelle différence entre les deux! Vous ne trouvez pas? Je suis très heureuse de faire partie de la catégorie des croyants, parce que je sais que je ne serai jamais condamnée, comme la deuxième catégorie, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus. Je suis consciente qu'on mérite tous d'être condamnés. Je suis loin d'être meilleure que tous ceux qui subiront le châtiment éternel. Mais je sais que Jésus a pris ma condamnation sur lui quand il est mort sur la croix pour moi. Paul dit ceci dans le 5e chapitre de son épître aux Romains au verset 18. Il dit, « Comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Mes amis, la condamnation nous a tous atteints parce qu'on est tous des pécheurs. Mais Paul dit dans son épître aux Romains, au chapitre 3, 23, que tous ont péché. Mais ce qui est merveilleux, c'est que par l'acte de justice de Jésus, la vie s'étend à tous les hommes. Oh mon ami, est-ce que tu crois que Jésus a accompli cet acte de justice à la croix pour toi personnellement? Dieu ne veut pas te condamner pour l'éternité. C'est pourquoi il a donné son Fils, afin qu'en croyant en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. J'aimerais te voir à la même place que moi, au jour des récompenses. Je ne veux pas, et surtout Dieu ne veut pas, que tu paraisses devant lui pour être condamné pour l'éternité. Oh mon ami, saisis le moyen que Dieu te donne aujourd'hui de venir à lui. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nul ne vient au Père que par moi. Mon ami, Jésus est le seul chemin qui mène au ciel. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Mon ami, le péché nous a tous séparés de Dieu. Mais maintenant, il veut reprendre son intimité avec toi. Imagine, souper avec Jésus. Quand tu soupes avec quelqu'un en tête à tête, c'est que tu es très intime avec lui. C'est ce que Jésus veut faire avec toi. Mon ami, repens-toi. Change de direction à l'égard du péché. Tourne-toi vers Jésus, vers ce Jésus merveilleux qui a donné sa vie sur la croix pour toi. Et demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Et tu n'auras jamais à subir la condamnation éternelle. Paul nous dit dans le premier verset du 8e chapitre de son épître aux Romains qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Imagine-toi vivre le reste de ta vie sur cette terre, assuré que tu ne seras jamais condamné. Dieu ne veut pas te condamner, il veut te sauver maintenant. Alors repens-toi et demande à Jésus de te sauver. Ses bras sont grands ouverts devant toi. Reçois Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions. Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le, rejoins ces gens. Qui seront aidés.
T'as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye-bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.